Chapitre 15. Les deux scientifiques français ont informé l'équipe du centre de Kourou des circonstances précises qui ont vu le sabotage du matériel d'Alice, la découverte du coupable, la perte des deux astronautes américains ainsi que celle du module Kibo, lequel continue de dériver dans le vide sidéral. Ils ont aussi appris aux ingénieurs l'arrestation du commandant Pierre Cuvier et son enfermement dans le module Zvezda. L'Agence spatiale européenne a confirmé son intention d'envoyer au plus vite une navette pour récupérer le prisonnier, mais a précisé qu'aucune n'était disponible dans l'immédiat. Il faut seulement attendre. Alice et Simon se sont donc résolus à vivre normalement dans la station, en se contentant de nourrir Pierre et de veiller au bon fonctionnement des systèmes de chauffage et de ventilation du module russe. L'essentiel de leur temps, les Français travaillent ensemble sur le projet Métamorphosis. « Passez-moi le sperme, s'il vous plaît, Simon », dit Alice. Le scientifique lui tend une fine éprouvette contenant une substance argentée. « Simple curiosité, vous avez déjà été en couple, Alice ?» demande-t-il d'un ton détaché. « J'ai consacré ma vie à la science, rien qu'à la science. Votre passion pour la science est-elle l'unique raison de ce célibat ?» Alice répond très calmement. « Ma grand-mère était d'origine russe. Elle a été enceinte de ma mère alors qu'elle était assistante dans une centrale nucléaire de type Tchernobyl. » Elle a dû approcher de trop près une zone mal sécurisée qui émettait des radiations. Quoi qu'il en soit, ma mère est née avec une malformation. Le terme médical est syndactylie. Je crois savoir de quoi il s'agit. Elle avait les mains palmées. C'est exact. À l'école, les autres enfants se moquaient d'elle. Ils lui disaient qu'elle allait devenir championne de natation. Pauvre enfant. Elle était plus à plaindre qu'autre chose. C'était une victime. Elle portait toujours des gants pour dissimuler sa différence. Sa famille a ensuite émigré en France. Ma mère a suivi des études de biologie et c'est là qu'elle a rencontré mon père, scientifique spécialisé dans les mutations du vivant. C'était son professeur. Malgré la différence d'âge, ils ont vécu heureux. Ils m'ont eu. Et puis mon père, passionné de vol, a fait une chute mortelle en parapente.
Et vous vous êtes retrouvé seul avec votre mère ?
Maman m'a toujours encouragée dans ce que j'ai entrepris, surtout lors de ma deuxième thèse, lorsque j'ai imaginé de fabriquer, par génie génétique, un humain hybride volant. Elle m'a avoué qu'elle se sentait honorée par cette idée d'un être qui possède des membranes entre les phalanges comme elle, mais aussi des ailes de chauve-souris qui permettaient de voler. Elle m'était reconnaissante d'avoir ainsi, d'une certaine façon, tissé un lien avec mon père. Je comprends mieux l'origine de votre démarche. Un jour, alors qu'elle était en vacances près d'Arcachon avec son nouveau compagnon, celui-ci a été emporté par une baïne. Elle a voulu le secourir. Elle n'a pas réussi. Et elle a été emportée, elle aussi. J'ai appris son décès par un coup de téléphone des pompiers. Elle soupire. Et vous savez ce qui est le plus étrange ? L'une des premières pensées qui m'ont traversé l'esprit au moment de ce nouveau drame a été qu'elle n'avait finalement pas eu assez de membranes entre les doigts pour nager avec quelqu'un à contre-courant et le sauver. À l'évocation de ce souvenir douloureux, Alice a un sourire triste. Ces moments ont dû être terribles, compatit Simon. Heureusement, vous n'avez pas hérité du handicap de votre mère. Pas le même, non. Mais il se trouve que j'ai moi aussi un handicap physique.
Je lui dis ou je lui dis pas.
Elle s'arrête, prend une grande inspiration. J'ai une différence morphologique qui a complètement changé ma manière de penser. Simon regarde les mains d'Alice. Non, ce n'est pas là. J'ai ce qu'on nomme un handicap invisible. L'endométriose. Simon hoche la tête, l'air concerné.
Il semble savoir de quoi il s'agit.
Des restes de séquences d'ADN de néandertaliens. Cela réduit énormément mes chances d'avoir des enfants, précise-t-elle cependant. Il semble gêné devant la révélation d'un détail aussi intime. Alice hausse les épaules et s'empresse de reprendre sa manipulation. Merci pour le sperme. Où avez-vous disposé les ovules ? Demande-t-elle. Simon va chercher dans un caisson réfrigéré d'autres éprouvettes et une micropipette.
Est-ce pour cette raison que vous voulez fabriquer ces hybrides ? Ils seraient en quelque sorte des enfants artificiels qui remplaceraient vos enfants naturels.
Alice feint de ne pas avoir entendu la question et se penche sur son microscope.
Et vous, Simon, vous avez une femme qui vous attend sur Terre ?
Non. Il soupire. Je vous ai dit que j'étais un peu hypochondriaque. Cela peut paraître ridicule, mais quand j'étais jeune, j'avais très peur d'attraper le sida. Et puis, même quand il y a eu un traitement, j'ai eu la crainte d'attraper l'hépatite B, le papillomavirus, la syphilis, la chlamydiose. Je n'ai pu surmonter ces hantises qu'à 21 ans. Et me décontracter n'a pas été facile.
Alice quitte un instant l'œilleton de son microscope, intriguée.
Ma première expérience, disons, intime, était avec une étudiante en médecine. Par sécurité. Je me disais qu'elle saurait quoi faire pour se protéger. Ensuite, j'ai eu d'autres histoires, toujours avec des femmes qui travaillaient dans le milieu médical. Cependant, ces relations ont rarement dépassé quelques semaines.
Par peur des MST ? Demande un peu abruptement la jeune femme.
Peut-être aussi par peur de l'engagement, reconnaît Simon. La peur de me sentir coincée. Cela explique pourquoi je suis encore célibataire.
Ma mère disait, les hommes bien sont déjà pris, et s'ils sont libres, c'est qu'ils ont un problème caché.
Ce souvenir l'a fait sourire.
Et nous voilà tous les deux, isolés et seuls. Un peu comme Robinson Crusoe et Vendredi, dit-elle.
Et samedi, si l'on pense à Pierre enfermé dans son module russe.
Je me demande s'ils ont eu une histoire sentimentale, s'interroge Simon après un long moment.
Robinson et Vendredi ensemble. Quelle drôle d'idée.
La solitude est parfois très difficile à vivre, poursuit Simon. On a tous besoin de quelqu'un à nos côtés. Quelqu'un qui partage nos bons et nos mauvais moments, qui...
Simon cherche ses mots mais n'arrive pas à terminer sa phrase. Suit encore un long silence. Alice relève à nouveau la tête de son microscope et se tourne vers lui. Le visage de Simon a changé. Il est grave. Et ses yeux sont animés d'une lueur différente, intense.
Le scientifique approche très lentement son visage de celui d'Alice, comme pour lui laisser la possibilité de reculer ou de lui exprimer un refus.
Cependant, elle ne bouge pas.
Ça me rappelle la rencontre entre la capsule américaine Apollo et le vaisseau russe Soyouz en 1975.
Il continue d'approcher au ralenti. Elle ne bouge toujours pas. Chaque seconde lui semble très longue. Elle se souvient d'une autre phrase de sa mère. À tous les grands carrefours de la vie, on a le choix entre la peur et l'amour. Elle a peur ? Mais elle bloque tout son corps pour ne pas s'enfuir.
Leurs lèvres entrent en contact. Très lentement, elle ouvre la bouche. Leur baiser, plus profond, dure quelques dizaines de secondes.
Dans leur regard, l'énergie est désormais différente. Elle a l'impression que celui de Simon brille d'un nouvel éclat.
Il semble rassuré que nous ayons franchi un cap dans notre complicité. Je le suis aussi.
Cependant, j'ai envie de vivre pleinement chaque étape l'une après l'autre. Comme disait maman,
ralentis, tu iras plus vite.
Et si on allait dîner ?
Propose-t-elle la gorge nouée sous le coup d'une émotion incontrôlable malgré tous ses efforts pour s'apaiser.
Simon sourit, un peu gêné.
Bien sûr.
Il est aussi maladroit que moi.
Je me disais que nous sommes décidément très particuliers. Nous avons dit, vous et moi, exactement tout ce qu'il ne faut pas dire pour séduire l'autre.
Cette fois-ci, tous les deux rient franchement.
Prononcer les mots endométriose et peur, on ne peut pas démarrer plus mal,
plaisante-t-il. Sans parler de Scott, de Kevin et de Pierre, dont le souvenir et la pensée ne sont guère inspirants pour un instant romantique.
Alice redevient sérieuse et le repousse de la main alors qu'il s'approche pour obtenir un nouveau baiser.
Nous allons y aller pas à pas. Il ne faut pas me brusquer.
C'est vous qui m'indiquerez le moment opportun pour détacher les différents étages de la fusée. J'aime bien son humour.
Et puis, je crois qu'il est important d'avoir une ambiance propice, dit-elle avec un clin d'œil.
Il faut que j'arrive à oublier mon passé. Il faut que j'arrive à oublier la mort des deux Américains. Il faut que j'arrive à oublier Pierre enfermé dans son module russe. Il faut même que j'arrive à oublier que je dois les oublier. Sinon, je ne pourrai jamais être vraiment détendue avec Simon. J'ai l'impression de passer un examen dont l'objectif n'est plus, comme à l'université, de se rappeler ses cours, mais plutôt de faire le vide total dans sa tête.
Le dîner est un moment agréable. Les deux scientifiques se racontent leur vie, entrant un peu plus dans le détail. Le repas terminé, Simon part jeter un œil au module où est enfermé Pierre. Il décide de se retrouver dans le dôme Cupola une demi-heure plus tard. Dans sa chambre, Alice met ce qu'elle a emporté de plus sexy, un t-shirt noir avec un short, noir lui aussi, satiné, qui révèle ses très belles jambes. Pour créer une atmosphère propice dans le dôme, la jeune femme installe des fausses bougies électriques et un petit appareil qui diffuse de la musique, en l'occurrence les gymnopédies d'Eric Satie. Alors qu'il est minuit en temps universel, les deux scientifiques se retrouvent dans la coupole d'observation italienne. Pour l'occasion, Simon lui aussi a fait un effort. Il a enfilé un t-shirt et un short noir. Il a apporté un thermos de champagne. On pourrait dire que c'est un rendez-vous aux chandelles, au clair de lune, si ce n'est que les bougies sont électriques et que c'est un clair de terre, dit Simon. Il lui tend le thermos de champagne. Elle boit au goulot la boisson pétillante et fraîche, puis la lui offre en retour. Simon boit trop vite et recrache quelques gouttes du liquide doré qui se mettent à flotter autour d'eux.
C'est lui qui est censé être trouillard, et c'est moi qui ai peur. J'ai rarement eu aussi peur de ma vie. Même lorsque je me suis élancée pour mon premier saut en parachute au-dessus des pyramides en Égypte.
Ils commencent à s'embrasser timidement sur la bouche. Avec une audace qui la surprend elle-même, Alice déshabille Simon presque entièrement, ne lui laissant que son caleçon. Puis elle enlève son t-shirt et son short, laissant apparaître son soutien-gorge et son slip en dentelle noire. Ils sont tous les deux presque nus, flottant dans le dôme d'observation au milieu des gouttes de champagne qui forment comme des étoiles scintillantes autour d'eux, avec en arrière-fond le rond bleu turquoise de la Terre.
Peut-être qu'un voyeur sur Terre nous observe avec un télescope, dit Simon.
Elle l'attire vers elle pour l'embrasser. À son grand étonnement, c'est donc elle qui prend l'initiative, alors que la musique d'Eric Satie résonne de plus en plus présente. Mais ils sont trop nerveux et, avec la pesanteur, n'arrivent pas à fusionner leur corps. Une goutte de champagne pénètre dans l'œil d'Alice.
Ce n'est qu'un premier essai, comme on disait pour le lancement de la fusée Apollo 1 en janvier 1967, dit Simon en lui essuyant une larme.
Celui qui a fait trois morts sans même avoir décollé, relève-t-elle sarcastique.
Celui-là même.
Et ensuite, ont-ils réussi?
Oui, avec la fusée suivante, je crois, répond doucement Simon, tout en caressant la fine peau des épaules rondes de la jeune femme.
Parfait. Alors n'attendons plus. Lançons Apollo 2, murmure-t-elle.
Et pour commencer, nous allons arrêter de nous vouvoyer. Qu'en penses-tu?
Elle monte le son des gymnopédies, reprend une gorgée de champagne, puis saute sur les hanches de Simon, l'enserrant entre ses cuisses et pressant sa poitrine contre la sienne. De nouveau, leurs bouches se retrouvent. Ainsi unies, ils flottent en lévitation dans le dôme transparent.
Voilà l'expérience ultime d'apesanteur.
Au bout de quelques minutes, elle sent une sorte d'irrépressible pression qui part de son ventre et monte jusqu'à sa gorge.
Que se passe-t-il?
Tout son corps semble traversé par une tension électrique qui la parcourt de bas en haut. Sa colonne vertébrale devient comme la cheminée d'un volcan. Soudain, un voile blanc obstrue sa vue. Sa respiration s'arrête
alors que son cœur bat très vite.
« Je suis en train de mourir !»
Elle reste en suspens de longues secondes, avec la sensation d'une immense vague qui la submerge. Ses poumons se gonflent à l'extrême et elle lâche un grand cri qui libère toute la tension accumulée.
C'est maintenant.
Son cerveau, arrivé à un summum de plaisir, se bloque et fait défiler devant ses yeux toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Je meurs.
Une phrase de sa mère résonne dans son esprit. C'est au moment où la chenille pensait que sa vie était finie qu'elle se transforma en papillon.
Ce que je vis est aussi une manière de voler. Voilà donc ce que cherchait mon âme en se libérant de la pesanteur.
Alice se détache du corps de Simon et reste à flotter dans le dôme cupola, les yeux dans le vague, la mâchoire relâchée.
Ça va ?
L'interroge Simon, inquiet. Elle ne répond pas. Un sourire figé aux lèvres, alors que ses yeux sont embués de larmes.
« Tu es sûre que ça va ?»
répète-t-il. Elle n'a pas envie de parler. Elle se sent vidée de toute énergie.
« Ça y est, j'y suis arrivée. Je ne pense plus à rien. J'ai tout oublié. J'ai même oublié qui je suis, où je suis, quel jour nous sommes. Je suis dans un état d'absence totale. Et c'est délicieux. Je crois que j'ai uniquement envie de rire. »
Puis lui vient une sensation mêlant une joie immense, l'impression d'avoir fondu et comme un frétillement dans ses extrémités. Elle éclate de rire. Simon rit aussi. Elle ressent encore des picotements et des frissons sur tout son épiderme, mais elle sait que la grande vague qui a dévasté son esprit est passée.
« Encore ?»
souffle-t-elle. Il recommence. C'est à la fois moins expérimental et plus expérimenté. Alice a l'impression que les sensations sont décuplées. Désormais, il ne s'agit plus de découvrir, mais de reconnaître. Enfin, ils s'endorment nus, leur corps réuni. Elle, sa peau rose, ses cheveux noirs, et lui, sa peau blanche et ses cheveux blancs, forment ensemble le symbole du yin et du yang, qui tournoie au ralenti dans le dôme transparent devant la sphère bleue de la Terre.